les Jhana et Nibbana par le Vénérable Sasana, le 9 juin 2002.
Il est important de nous établir afin d'être réceptif à cet enseignement dans un certain degré de pureté intérieure, pureté gestuelle, pureté verbale, pureté mentale. Tant que nous faisons cela en nous engageant, à titre tout à fait personnel, à nous abstenir de développer certains comportements, ne serait-ce que pendant la durée d'enseignement. C'est pour ça que lorsque nous assistons à un enseignement donné par un moine, nous prenons les 5 préceptes. Toujours nous prenons les 5 préceptes. Alors ceux qui font la retraite ici depuis quelques jours, normalement ont déjà pris l'observance des 8 préceptes. Et ceux qui sont venus, ceux et celles qui sont venus juste aujourd'hui pour l'enseignement, devraient donc prendre, adopter les 5 préceptes de vertu, ne serait-ce que pendant la durée de l'enseignement, que j'avais simplement énuméré, et chacun n'a qu'à prendre cet engagement à titre tout à fait personnel pendant la récitation. Donc le premier précepte qui consiste à ne pas tuer, ne pas porter atteinte à la vie de tous les êtres, il faut s'abstenir de faire cela. Le deuxième précepte qui est ne pas s'approprier, ne pas s'octroyer la propriété qui n'a pas été dûment acquise et légale, il faut donc s'abstenir de faire cela. Tuer, mentir, tuer, voler, mentir. Le troisième qui est de ne pas mentir, ne pas dire ce qui n'est pas l'exacte vérité des faits, il faut donc s'abstenir de cela. Ensuite, le quatrième qui est de s'abstenir d'une méconduite sexuelle, d'avoir une conduite sexuelle malsaine, comme par exemple l'adultère, l'inceste. Donc de cela il faut s'abstenir. Ensuite, le cinquième principe qui est de ne pas absorber de boissons fermentées. De cela donc il faut s'abstenir. Maintenant que nous avons pris ces 5 préceptes, nous avons aussi recité un hommage ensemble. Namotasa, qui est l'hommage à Bouddha, qui est le découvreur, le défricheur, qui est l'aventurier, qui, par ses propres moyens, est parti seul à la découverte, sans l'aide de personne, sans les conseils de personne, qui est parti à la découverte du monde et de la cessation du monde, qui est parti à la découverte de la souffrance et de la cessation de la souffrance. Nous lui rendons hommage parce qu'il a essuyé les plâtres, il a affronté toutes les difficultés nécessaires, et parce qu'il a eu la bonté, la générosité, la grâce de ne pas garder ses découvertes pour lui et de les partager. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Nous en sommes heureux, nous en sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits du bien-être que cela nous apporte. Et pendant cette retraite de Vipassana, nous avons pu voir certaines personnes qui ont visiblement apprécié les bienfaits de cet entraînement. Et ensuite, nous avons récité une formule dans laquelle nous disons que vers Bouddha, nous marchons. De la même façon que l'on marche vers un abri, vers un refuge. Ça ne veut pas dire que l'on prend refuge, ça ne veut pas dire qu'on se réfugie. Mais ça veut dire que de la même manière que nous fuyons les intempéries en allant nous mettre à l'abri, sous un toit, de la même manière nous essayons de nous écarter, de fuir les souffrances, les misères, les vicissitudes de la vie en allant prendre refuge, en allant nous mettre sous l'abri que représente Bouddha, que représente son enseignement, qui est l'exposé des faits, qui est l'énoncé de la réalité du monde comme il est, et nous allons nous protéger, nous mettre à l'abri des vicissitudes et des difficultés de la vie en marchant vers la communauté de ceux qui ont, à sa suite, mis en pratique cet enseignement et qui sont arrivés à sa pleine réalisation. Ça n'est pas une fuite du monde, c'est une fuite de la souffrance. Ça revient à dire un peu la même chose, mais il y a une nuance. Ici, la fuite n'est pas considérée comme un acte de lâcheté. C'est, d'ailleurs, le mot n'est peut-être pas d'ailleurs le plus approprié. Fuite dans le sens de désir sincère d'y mettre un terme. Et ce désir n'est pas un acte de lâcheté. C'est un désir légitime, exactement de la même manière que lorsque l'on a une blessure, il est tout à fait légitime que de vouloir tout de suite mettre un pansement, de vouloir tout de suite prendre les médicaments nécessaire pour se soigner. C'est une fuite de la souffrance, mais paradoxalement, c'est une fuite de la souffrance qui passe par la volonté d'y appliquer un traitement direct. Donc de la même manière, nous sommes comme des gens malades qui veulent évacuer la maladie, non pas en fuyant la réalité du monde, mais bien au contraire, en affrontant cette maladie et en ayant une gestion et un traitement direct de celle-ci, qui est ce qu'on appelle bien entendu la cure, la thérapie. Donc, de la même manière que l'on soigne une blessure avec un pansement, de la même manière, nous protégeons, nous gardons, nous prévenons des souffrances, des difficultés, des misères du monde dans lequel nous vivons, en y appliquant la thérapie, en y appliquant le remède de l'enseignement, le remède qui nous a été donné par Bouddha et qui nous est dispensé aujourd'hui par les moines ou tout simplement par nos collègues de route qui en ont déjà bénéficié et qui partagent leur expérience avec nous. Cette voie qui est censée amener les êtres à la libération de la souffrance est une voie qui est légitime, qui est parfaitement légitime, qui est une voie saine, qui est une voie dans laquelle s'engage toute personne à peu près sensée et suffisamment claire, suffisamment éveillée, suffisamment intelligente. Il n'y a que les animaux qui ne peuvent pas échapper à leur misère quotidienne et qui s'y entretiennent de la façon la plus confuse qui soit, en continuant de vivre malgré eux dans un monde de prédation, dans un monde d'agressivité, dans un monde de peur, dans un monde de fuite, et dans un monde d'agression, dans un monde de haine, dans un monde de violence. Les humains ont une capacité que les animaux n'ont pas, qui est dans un premier temps de concevoir qu'il est peut-être possible d'y échapper, et dans un deuxième temps, de désirer véritablement et sincèrement y échapper, et d'aller vers quelque chose, d'aller vers un lieu, d'aller vers un état, d'aller vers une expérience qui en serait totalement libre, totalement vide. Nous avons pour cela certains organes intellectuels, certains organes mentaux qui font partie de notre condition humaine, qui nous donnent la possibilité de discriminer en ce qui est susceptible de nous aider sur cette voie, d'une part, et ce qui est susceptible de nous entretenir dans la misère, dans la souffrance, dans l'agressivité, dans la violence, dans la prédation. D'autre part, nous avons cette capacité à discriminer ce qui est habile, kusala, qui donnera plus tard le mot en anglais skill, ou le mot latin scola, qui veut dire école, mais on sait que le mot école vient de cette racine qui signifie habileté, puisque l'école est justement l'endroit où on est censé développer une habileté. Kusala veut dire habile, habile dans le sens de, par exemple, comme le précise le commentaire du Dhammasangani, rédigé par Buddhaghosa, il explique que le mot kusala est le terme employé pour désigner l'habileté d'un artiste, l'habileté d'un artisan, l'habileté d'un technicien à accomplir son art. Voilà le sens du mot kusala, qui ne veut pas dire bien, qui ne veut pas dire bon, mais habile dans le sens que c'est intelligent, c'est fin, c'est ce qui va nous aider à aller mieux. C'est habile parce que cela va nous amener moins de souffrance, moins de peine, cela va nous amener à avancer. Ce qui est malhabile, ce qui est maladroit, et ce qui nous fait rater notre opération, ce qui nous fait rater notre coup. Ah, tout cela veut dire malhabile. Nous sommes dans une école, scola, skill en anglais, school, ce sont des mots qui ont les mêmes racines. Nous sommes dans une école, nous sommes dans l'école de l'habileté, justement. Et nous allons nous entraîner, nous habituer à essayer de développer les comportements habiles, utiles, constructifs, bénéfiques, et à abandonner les comportements malhabiles, malheureux, générateurs de malheur, de souffrance et de peine. Maintenant, si on demande à un juif, à un musulman, à un hindou, à un bouddhiste, à un theravada, à un chrétien, à un communiste, à un nazi, à un fasciste ou tout simplement à un athée, consommateur de base, quels sont les moyens habiles pour arriver à cette destination, à ce lieu, à cette expérience, vide de peine, vide de misère, vide de souffrance? Nous aurons là probablement plusieurs réponses différentes. Nous aurons là certainement beaucoup d'éléments qui risque d'ailleurs de prêter à confusion. Il n'est pas nécessaire d'étudier quelles sont les méthodes, les voies préconisées par les uns et par les autres. Il est plus utile de réfléchir par nous-mêmes et d'essayer d'arriver à comprendre par nous-mêmes. D'une part, arriver à comprendre par nous-mêmes ce qu'est l'état de peine, l'état de stress, l'état de contrainte dans lesquels nous vivons. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas beaucoup à réfléchir d'ailleurs, c'est assez spontané, c'est assez direct. La prise de conscience avec la souffrance du monde, pour certains d'entre nous, date de nos plus jeunes années. Il est intéressant de comprendre, de réfléchir, d'analyser sur ce qui doit être un lieu, une expérience, une situation vide de cette peine, de cette souffrance, de ce stress. Et une fois que nous aurons réfléchi intelligemment, de façon construite sur ces deux éléments, nous devrions arriver à réfléchir, à comprendre, à trouver, à développer l'habileté à comprendre ce qui, d'une part, est producteur de peine, producteur de souffrance, générateur de misère, de stress, et d'autre part, ce qui est producteur, générateur, ou ce qui doit nous amener à expérimenter la fin de la souffrance, la fin de la misère, la fin du stress. Nous nous retrouvons donc dans un monde à quatre dimensions, en fait. Cette réflexion, qui doit être intelligente, qui doit être mûre, qui doit s'appuyer sur autant de doutes, de remises en question, que de conviction et de confiance, parce que avoir confiance sans douter, c'est dangereux. Douter sans avoir confiance, c'est stérile. Il nous faut trouver une voie d'équilibre juste, où il subsiste toujours en nous une parcelle de doute, c'est-à-dire une parcelle susceptible de toujours nous amener à réfléchir, à nous poser une question, à nous remettre en question, à tout moment, à nous demander si vraiment on n'est pas en train de partir sur des voies dangereuses. Il faut faire très attention à la confiance qui devient trop vite une espèce de foi aveugle, en fait, dans un système que l'on ne maîtrise plus. On dit parfois, celui qui est arrivé à la réalisation, celui qui a fait l'expérience de l'éveil, est celui qui a dissipé le doute. Mais paradoxalement, dissiper le doute, c'est aussi dissiper la confiance. Il n'a pas été dit, dans l'enseignement, Bouddha n'a pas dit, celui qui est arrivé à l'expérience de l'éveil a développé une confiance totale. Il dit qu'il a abandonné le doute sceptique. Et en fait, en ayant abandonné le doute sceptique, il a, par la même occasion, abandonné la confiance totale. Ce sont deux éléments qui sont dangereux quand ils sont présents de manière disproportionnée et qui sont constructifs et nécessaires quand ils sont présents de manière équilibrée. Notre école est l'école de la réflexion, c'est l'école du raisonnement. C'est l'école d'un certain scepticisme, et d'un scepticisme constructif, et non pas un scepticisme destructif. C'est l'école de la raison, l'école du raisonnable. Cette école-là ne se trouve pas dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni dans l'hindouisme, ni dans aucune forme de bouddhisme, ni dans le communisme, ni dans le nazisme, ni dans le consumérisme. Elle se trouve tout simplement en nous, en chacun d'entre nous, une fois que nous y avons adhéré. Elle se passe d'institution, elle se passe de prêtre, elle se passe de hiérarchie, elle se passe de conviction, elle se passe de discours, elle se passe d'écrit. Puisque c'est tout simplement le travail que nous effectuons chacun, à notre niveau, dans notre vie quotidienne. Et lorsque nous réfléchissons, et lorsque nous avançons, nous découvrons par nous-mêmes que nos réflexions ont déjà été faites par le passé, qu'elles ont déjà été tenues, qu'elles ont déjà été conduites par des gens dans le passé. Et nous découvrons que Bouddha, le moine Gautama, est quelqu'un dont le discours ne s'est jamais écarté de ce registre. tout le discours, Nyuman Gautama, est en fait, mais ça, il faut le vérifier, c'est quand on l'étudie, c'est quand on y réfléchit qu'on s'en rend compte, qu'on le découvre, un discours pragmatique et raisonnable sur les choses de la vie. Et à ce moment-là, on se sent en phase avec ce discours, on se sent en phase avec l'enseignement des moines, on se sent en phase avec l'enseignement de Bouddha. Non pas parce qu'on lui fait confiance, mais tout simplement parce que on arrive nous-mêmes, par nos propres réflexions, à des résultats similaires, à des intuitions similaires. C'est pas tellement qu'on est d'accord avec Bouddha, mais c'est plutôt qu'on se dit que il est en accord avec nous. Il y a toujours cet équilibre, en fait, entre un certain doute, un certain scepticisme et une certaine confiance. Et ça, c'est important. Et sachez que celui qui est arrivé à l'éveil parfait, à l'éveil final, qui est arrivé à la réalisation complète, qui est devenu ce que l'on appelle un Bouddha ou un Arahanta, n'est pas quelqu'un qui pourrait dire qu'il a une confiance totale, une confiance absolue, une confiance parfaite dans l'enseignement. C'est peut-être pas non plus quelqu'un qui pourrait dire le contraire. C'est quelqu'un qui a acquis cette capacité dans toutes ses expériences, dans toutes ses réflexions, dans tous ses moments de pensée, à ne jamais être certain de rien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne doute jamais. C'est assez paradoxal. L'état de confiance absolue, l'état de vérité totale, l'état de certitude est une chose qui est absente dans l'esprit d'un être intelligent, dans l'esprit d'un être sage. Ainsi, si nous réfléchissons, si nous nous posons la question de quoi est fait ce monde, nous verrons que toute discussion, toute réflexion nous amènera quand même vraisemblablement à nous rendre compte que ce monde est quand même assez confus et qu'il est très difficile d'arriver à extraire une vérité, une substance ou quelque chose de stable, de fiable sur quoi se reposer. Nous vivons vraiment dans un monde confus, que ce soit le monde social, le monde politique, le monde économique, le monde technologique, le monde réel ou virtuel comme on les appelle, que ce soit le monde de la religion, de la spiritualité, de la philosophie, de la culture, tout ceci reste quand même dans l'ensemble relativement confus, désordonné. Et dans toutes les sphères d'activité humaine, il subsiste quand même une constante qui est un certain degré de stress, un certain degré de contrainte. Et un indicible, immense désir et soif de liberté que tous les êtres presque partagent à leur manière. Donc nous arrivons à une conclusion qui est raisonnable, qui est réfléchie et qui peut mériter bien sûr toujours plus d'investigation de notre pensée, de notre réflexion, qui est que l'une des caractéristiques dominantes de ce monde est qu'il est pénible, tout simplement. C'est une caractéristique qui semble se vérifier à peu près partout. Partout où que l'on réfléchisse et que l'on observe. Nous avons déjà un élément important à notre disposition. Maintenant, nous pouvons essayer de penser, de réfléchir à ce que cela pourrait être que un endroit, un lieu, une situation, une expérience vide de cette contrainte. Et nous pouvons comprendre que cet endroit, ce lieu, cette chose est la seule alternative possible à toutes les turpitudes, à toutes les contraintes et à toutes les misères du monde. Exactement de la même manière que s'il y a du bruit, la seule alternative possible pour nous libérer complètement du bruit doit être le silence. Par exemple, lorsqu'il y a un son particulièrement déplaisant et désagréable, on voudrait que ce son s'arrête parce que c'est pénible. On a la possibilité de remplacer ce son par un autre, de transmuter ce son, de purifier ce son, d'entreprendre une pratique, une démarche qui doit nous amener d'un son particulièrement désagréable à un son peut-être béatifique, merveilleux, agréable. Mais le problème, c'est que de toute façon, on n'a pas éliminé le son. On est passé d'un son désagréable à un son agréable. Et après, c'est mieux que rien. Ça peut nous apporter un réconfort à court terme, momentanément. Mais on n'a pas véritablement éliminé le problème du son parce que le son est encore là. De plus, même si nous avions un son particulièrement agréable, il est probable qu'au bout d'un moment, on en serait complètement gavé, saturé, fatigué. Et que même un son particulièrement beau, mélodieux, deviendrait insupportable. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Un son est-il plaisant? Est-il beau? Est-il agréable? Et soudainement le même, exactement le même, la même mélodie, devient insupportable et insoutenable. C'est quand même bizarre. Ce qui a changé, c'est tout simplement qu'on en a trop, on en est gavé, on en est saturé. Même le plaisir devient déplaisir. Même le plaisir par sa présence devient insupportable et devient lui aussi source de peine, de contrainte et de stress. Souvent d'ailleurs, le plaisir est utilisé par les humains comme remède à court terme pour effacer les souffrances et les misères. Et en fait, on en est presque condamné à courir après le plaisir pour rendre ce monde plus supportable. Le plaisir devient lui-même source de notre souffrance et de notre misère parce qu'on est condamné à lui courir après. Le plaisir n'est donc pas le bien-être, le plaisir n'est pas encore la solution, l'alternative à la souffrance. L'alternative à la peine, au stress, c'est l'absence de peine, l'absence de stress. L'alternative au son déplaisant n'est pas le son plaisant, c'est l'absence de son. L'alternative à toute expérience pénible, douloureuse, n'est pas l'expérience heureuse et pleine, c'est l'absence d'expérience. Voilà ce que Bouddha a découvert et voilà ce que notre réflexion peut peut-être nous amener aussi à découvrir. Nous pouvons arriver, comme les humains aiment à le faire depuis des siècles, depuis des millénaires, à travers certains exercices spirituels, à expérimenter des états de grâce, des états de conscience qui sont limpides et dans lesquels il n'y a quasiment rien qui se manifeste. Des états de conscience qui ont la capacité de demeurer un peu comme s'ils demeuraient absorbés en eux-mêmes, limpides, clairs, immobiles. Ce sont des états de conscience qui sont accompagnés d'une profonde sensation de bien-être et qui sont en tout cas vides de sensations désagréables et pénibles. On cite de telles expériences dans de nombreuses littératures du passé, littérature mystique, du soufisme, de l'hindouisme, du mahayana, du bouddhisme, de diverses traditions. Ces consciences, on peut imaginer qu'elles existent, même si on ne les a jamais expérimentées. On en parle beaucoup dans la littérature du passé, dans les traditions mystiques diverses de l'humanité. On doit pouvoir imaginer, surtout si on a un peu une fibre spirituelle, surtout si soi-même on a eu quelques expériences inhabituelles, d'états modifiés de conscience, on doit pouvoir penser, on doit pouvoir imaginer qu'il est possible d'atteindre, par des exercices de méditation, de concentration, basés sur le souffle, basés sur des récitations, sur des mantras, sur des visualisations, atteindre un degré de sérénité intérieure, de plénitude intérieure, un état de bonheur intérieur intense. Il est donc possible, vraisemblablement, d'arriver à un lieu, une situation, un état vide de souffrance, vide de stress. Ces états, ces expériences, le parfait les appelle les jhanas. Ce sont des consciences, c'est la conscience, c'est toujours la conscience, qui fonctionne dans un mode particulier, dans un mode inhabituel, hyper accéléré, hyper rapide, d'une lucidité absolue, et qui demeure absorbé dans un état de bien-être, dans un état de neutralité, dans un état de joie intérieure extrêmement intense. C'est une forme de libération d'ailleurs. Il appelle aussi ses consciences des consciences libérées, émancipées. Mais nous sommes dans la même situation que celui qui a remplacé un son désagréable et pesant par un son plaisant et agréable. Parce que bien entendu qu'une sensation plaisante est par définition vide de sensations déplaisantes. En fait, si nous atteignons une plénitude, une divinité, une enstase spirituelle, nous sommes dans une situation, dans une expérience vide de souffrance. C'est vrai ? C'est parce que cette situation et cette expérience est profondément plaisante et jouissive qu'elle est vide de souffrance. En ce sens, elle n'est pas l'absence de souffrance. Elle est l'incapacité à la souffrance de prendre place parce qu'il y a autre chose qui prend toute la place. Pour arriver à ces états de conscience, à ces expériences mentales, il faut se livrer à des exercices spirituels qui sont décrits dans de nombreuses littératures, comme Saint Jean de la Croix, comme Ibn Arabi peut-être chez les soufis, Saint Jean de la Croix chez les mystiques chrétiens, certains mystiques du bouddhisme, du passé, du Mahayana, du Theravada, enseignent, expliquent des exercices, et Bouddha lui-même d'ailleurs, n'a pas manqué d'enseigner des exercices spirituels. Il en a recensé 40, qui ne sont bien entendu pas exclusifs, qui permettent à celui qui s'y entraîne avec beaucoup d'assiduité, d'énergie, de détermination, d'atteindre ces domaines particuliers, ces expériences spirituelles particulières. Mais pour lui, ça n'est pas la solution. Ce sont des consciences vides de souffrance parce que leur mode de fonctionnement n'autorise pas techniquement la présence de sensations pénibles. Exactement de la même manière que lorsque nous sommes chez le dentiste, nous ne ressentons pas la moindre douleur parce qu'il est techniquement impossible au nerf de transmettre la douleur puisqu'il a été endormi par un anesthésien. Mais le mécanisme habituel est toujours là. La fraise du dentiste est toujours là, le nerf est toujours là. Il y a simplement une fonction qui est la fonction de douleur qui a été momentanément neutralisée. Ainsi, lorsque nous nous absorbons, grâce à des exercices de méditation, lorsque nous faisons l'expérience d'une certaine jouissance intérieure, nous n'avons pas évacué, nous n'avons pas ébranlé les fondations de la souffrance, nous avons momentanément neutralisé une fonction. Nous n'avons plus la capacité de percevoir la souffrance. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus d'avoir atteint un état qui en est vide. Le stress, les contraintes, les difficultés ont été remplacées par quelque chose de trop volumineux, de trop ample pour laisser la place à quoi que ce soit d'autre. La jouissance, la félicité, le bonheur, le bien-être procuré par les jhanas ne connaît pas d'altérité parce qu'il est techniquement impossible qu'elle y prenne place. C'est déjà très bien d'y arriver. Nous pouvons y arriver par la méditation, par la concentration, fixer notre attention sur un seul point pendant des heures, des semaines, des mois, des années, sans relâche, jusqu'à ce que ce point apparaisse dans nos rêves, apparaisse à tout moment de la journée, même quand on n'y pense pas. toute la journée durant, nous sommes absorbés, nous faisons un avec le support de notre méditation. Par exemple, si nous avons choisi, par rapport à notre tradition religieuse, comme support de méditation, un symbole, une divinité, alors il arrivera un moment où nous atteindrons une sorte d'unité à cette divinité, où on ne pourra plus véritablement dissocier, distinguer la divinité de la conscience. Nous vivrons ainsi dans le domaine de la divinité. C'est très bien d'arriver à cela. Rares sont ceux qui y sont parvenus. Mais si on réfléchit un peu, on peut encore se poser la question de savoir si cela constitue vraiment une libération définitive. Pour l'éveillé Gautama, la réponse est négative. Pour le libre penseur, pour celui qui n'accepte rien a priori, la réponse ne peut être positive. Ce que le moine Gautama, Bouddha, a découvert est un chemin de traverse, insoupçonné, invisible de son temps. C'est une voie insolite qui ne permet pas aux êtres de basculer de la souffrance à la jouissance, du malheur au bonheur, qui permet aux êtres plutôt permet aux êtres plutôt d'arriver à ne plus produire de la souffrance, de la misère, sans pour autant produire du bonheur, du bien-être. C'est tout à fait paradoxal. C'est arrêter le mécanisme de production, arrêter le mécanisme de reproduction. C'est ne plus s'engager sur une voie. Pour lui, c'est ça l'alternative, la seule alternative à la souffrance. C'est l'absence de souffrance. C'est ne plus s'engager sur la voie qui amène à la souffrance. Et ne plus s'engager sur la voie qui amène à la souffrance, c'est aussi ne plus s'engager sur la voie qui amène au bonheur, à la jouissance, à la félicité. C'est la voie de l'abstention, de la cessation. La voie de la cessation nous amène à changer notre relation au monde, à changer notre expérience du monde, où nous n'entreprenons pas une pratique ou un exercice susceptible d'amener à un résultat. Mais nous cessons d'entreprendre une pratique ou un exercice susceptible d'amener à un résultat. Et à ce niveau-là, la question du résultat douloureux ou du résultat joyeux ne se pose même plus, parce que l'un et l'autre sont encore un problème. C'est la raison pour laquelle, dans notre voie, nous ne cherchons pas à nous diriger, à nous orienter vers l'expérience des jhanas, vers l'expérience des consciences sublimes, des consciences absorbées, des consciences divines. Nous ne sommes pas dans une démarche qui doit nous amener à expérimenter du bonheur, de la plénitude, de la paix intérieure. Nous sommes dans une démarche où nous cessons de faire ce qui est susceptible de nous amener à ces choses-là. C'est incroyable. Alors que nombreux sont ceux qui se posent des questions sur la création du monde, nous nous intéressons à l'instant qui l'a précédé. beaucoup de gens s'intéressent à ce qu'il faut faire pour arriver, pour atteindre. Nous, ce qui nous intéresse, paradoxalement, c'est justement ne plus arriver, ne plus atteindre. Que le monde n'apparaisse pas, que le monde ne se produise pas. Que la souffrance n'apparaisse plus, mais que le bonheur, que le plaisir n'apparaisse plus non plus. Pour reprendre l'image de tout à l'heure, qu'il n'y ait plus de bruit déplaisant, mais qu'il n'y ait plus non plus de bruit plaisant. L'expérience du silence, qui par définition ne peut pas en être une. C'est l'absence d'expérience. Parce que qui dit expérience dit nécessairement qu'il y a l'objet d'une expérience. Qui parle d'objet parle de présence. On ne parle que de présence dans la religion, dans la spiritualité ou dans l'économie. Notre démarche nous amène à l'absence d'expérience ou l'absence de présence, qui n'est pas le néant pour autant, parce que le néant n'existe pas. Ça, on s'en est bien rendu compte, puisque le monde est là. Donc nous ne pouvons pas atteindre le néant. Il n'y a pas de néant, il y a le monde. Il aurait pu y avoir le néant, mais s'il y avait eu le néant, il n'y aurait pas le monde. Or, visiblement, ça n'est pas le cas. Donc nous n'avons que le monde et son absence. Mais l'absence du monde ne peut être le néant. Voilà confronté à un étrange quid. Il doit donc y avoir quelque chose qui ne doit pas être une expérience, qui ne doit pas être une sensation, qui ne doit pas être une conscience, et qui doit être totalement et fondamentalement vide de souffrance, et fondamentalement vide de peine, fondamentalement vide de stress, mais en même temps totalement vide de bonheur, totalement vide de plénitude, totalement vide de joie. Et quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Puisqu'il ne peut pas y avoir rien, puisque visiblement, ça n'est pas le cas, puisque visiblement, l'univers n'est pas dans le néant. Nous sommes donc là confrontés à une sorte de puzzle technique, à une interrogation purement logique. Bouddha est celui qui a fait l'expérience de cet élément éteint, de cette chose éteinte, de cette chose qui est, qui existe, et qui par définition n'apparaît pas, ne peut pas apparaître, n'a pas de caractéristiques, n'a pas de forme, dont on ne peut pas vraiment dire qu'elle existe, mais dont on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas non plus. Et il a dû en faire l'expérience, il a dû, d'une manière ou d'une autre, approcher cette chose avec la conscience. Et pourtant, il n'a pas pu la voir. Cette expérience insolite, c'est le moins que l'on puisse dire, cette expérience qui doit être vide de sensations, est ce que l'on appelle l'expérience de l'éveil. L'expérience de l'éveil est une chose qui est difficile à décrire. Bouddha emploie plusieurs termes, il parle d'émancipation, de libération, mais il emploie aussi ces termes lorsqu'il parle des consciences divines. Pour désigner cette élément insolite, il a employé un mot, Nibbana, qui ne veut bien entendu pas dire ce que beaucoup de gens lui prêtent, la flamme qui aurait été soufflée, ou l'état vide d'attachement, ou l'état vide de souffrance. Le mot Nibbana n'a pas véritablement un sens lexical, il a un usage, comme tous les mots, mais on a du mal à lui trouver une racine. Ce sont les érudits qui aiment bien trouver des racines aux mots. Pourtant, il arrive un moment où obligatoirement un mot ne peut pas avoir de racine. Par définition. Par exemple, si vous prenez le mot pétrifié, vous dites pétrifié, voilà, la racine de pétrifié, c'est le mot pietra, petros qui veut dire la pierre en grec. Donc la racine de du mot pétrifié étant la pierre, le mot pétrifié veut dire ce qui a été transformé en pierre. Très bien. Et le mot pierre désigne quoi? Le mot pierre désigne, voilà, cette, ce minéral qui constitue les rochers. Et quelle est la racine du mot pierre? Il n'en a pas nécessairement. De la même manière, le mot nibbana est un terme désigné, utilisé pour désigner une chose qui n'a pas nécessairement une racine. Il n'est pas nécessaire de trouver une racine au mot. Bouddha a employé un terme qui s'utilisait de son temps pour désigner par exemple l'état du riz sorti de l'étuve, ou pour désigner l'état d'un chien après la mort. Paradoxalement, par définition, il n'y en a pas, puisqu'un chien mort n'est pas un chien. Pour ce faire, on employait un terme, ce temps-là, que l'on appelait Parinibbana. Parinibbana, qui veut dire quelque chose comme Nibbana complet, Nibbana qui englobe tout le périmètre. Mais c'est un mot qui n'a pas de racine, c'est un mot qui désigne une chose et dont il est inutile de trouver une racine. Lorsque l'on sort le riz de l'étuve, par exemple, le riz est encore chaud, mais il n'est plus chauffé. Pour désigner cet état particulier, en emploi de terme, on dit que le riz est dans le parinibbana. Il n'a pas disparu. Il n'y a rien qui disparu, et pourtant il y a quelque chose qui a cessé d'être. Bouddha emploie ce terme pour désigner cet élément, cette chose qui est vide de peine, vide de sensation, vide de bonheur, vide de plénitude. Et il emploie le mot parinibbana, qui est un mot qu'il a emprunté au vocabulaire, au langage courant de ses contemporains. Nibbana est assurément une chose, mais il est impossible vraiment d'en parler. Il est impossible de la désigner, de la montrer, probablement impossible de la sentir ou de la toucher. Mais c'est bel et bien une chose qui doit être là, qui doit être quelque part, mais impossible à localiser. Une chose qui ne doit pas être dans le monde véritablement, mais qui pourtant ne peut par définition pas lui être étranger. Le terme utilisé par Bouddha pour désigner ce genre de phénomène est le terme loka uttara, loka qui veut dire le lieu, la localisation, uttara qui signifie en deçà de, antérieur à, et non pas contre, contrairement à ce que nombreux érudits affirment, au-delà de. Loka uttara ne signifie pas au-delà du monde, mais loka uttara signifie en deçà du monde, qui est antérieur au monde. Et le choix de ce mot par Bouddha n'est bien entendu pas le fruit du hasard. Selon lui, Nibbana est antérieur et non pas au-delà du monde, du lieu. En gros, c'est ce qui se passe quand le monde ne se passe pas. Donc c'est ce qui se passe avant le monde, c'est ce qui est antérieur au monde, c'est ce qui est avant la création du monde, la formation du monde, c'est-à-dire l'apparition des phénomènes, quels qu'ils soient. Il serait inutile de parler longuement de Nibbana, mais utile de réfléchir un instant et de se dire qu'il doit y avoir dans ce monde l'alternative à la souffrance, l'alternative à la peine, l'alternative à la misère, l'alternative au stress, et que cette alternative, si elle existe, doit être quelque chose de parfaitement vide, vide d'expérience, vide de sa propre expérience, vide de sensation. Ceci est fort bien. Et en suivant la voie tracée par Bouddha, en écoutant l'enseignement, et en suivant l'entraînement qu'il a préconisé, qui est l'entraînement à l'établissement de l'attention, de la présence d'esprit, satipatthana, vipassana, Nous sommes censés arriver à faire cette expérience insolite de l'éveil. Il dit d'ailleurs que c'est la seule et unique voie qui y mène. Mais concrètement, dans nos vies quotidiennes, en essayant de voir ce que cela peut nous apporter dans nos vies quotidiennes, de médecins, d'instituteurs, de chômeurs, d'hommes, de femmes, de riches, de pauvres, de lettrés, d'illettrés, de vieux, de jeunes, concrètement, faire l'expérience de l'élément éteint, c'est une chose, enfin, il semblerait que ce n'en soit pas vraiment une, mais concrètement, en quoi est-ce que ça va nous permettre, nous, demain, de souffrir moins, d'être moins mal à l'aise, d'être moins dans la misère, dans le stress, dans la difficulté. Quitte à ce que ce soit aussi être moins dans les plaisirs, moins dans les petits bonheurs de la vie. Concrètement, comment est-ce que cela peut se traduire? Comment peut-on faire le lien entre ce loka utra, ce qui est antérieur au monde, ce qui est vide, et ce que nous expérimentons nous aujourd'hui, qui est bel et bien dans le monde, qui est palpable et qui n'est pas vide du tout de sensations, qui est plein de sensations, plein de turpitude, plein de peine, plein de difficultés, de stress, de misère, plein de joie, plein de compassion, plein d'amour, plein de bonheur, plein de gaieté. Comment faire le lien entre ces deux? Et quel lien y a-t-il d'ailleurs entre les deux? Et puis, est-ce qu'atteindre l'éveil, ça veut dire soudainement se fondre? Est-ce que ça veut dire que instantanément le corps disparaît, la conscience disparaît, tout disparaît? Y a-t-il un passage du monde vers l'en-deçà du monde? Y a-t-il un passage de notre vie quotidienne vers une espèce de non-vie? Et si tel était le cas, quel en serait l'intérêt dans le fond? Ce que nous voudrions, ce que veulent les êtres le plus légitimement du monde, c'est arriver dans leur vie quotidienne à expérimenter moins de peine, moins de souffrance. D'accord. Le seul fait qu'il y ait de la vie, il y a de la difficulté, du stress. Ok. On est d'accord avec cette idée. Mais nous sommes condamnés à vivre. Nous n'avons pas le choix. Alors comment gérer l'espace de temps qui nous sépare entre le moment où on a plus ou moins compris, plus ou moins admis ceci, et le dernier moment de notre vie, le moment où nous allons mourir, où après on ne sait pas du tout ce qui peut se passer? Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, de particulier, et bien entendu ça n'est pas le fruit du hasard, dans la démarche de Vipassana, de Satipatthana, ce qu'il y a d'intéressant lorsque l'on est arrivé à faire l'expérience de cet élément éteint, de cet élément qui n'est pas véritablement dans ce monde, ou qui le précède, c'est que cette expérience passée, beaucoup de choses ont changé. Et ces choses qui ont changé, c'est bel et bien dans le monde qu'elles ont changé. Par définition, ça ne peut pas être ailleurs. Et ce qui a changé, c'est que notre mental est moins pollué de désirs, d'attachements, de fascination, de colère, de haine, d'aversion et d'indifférence. Ce qui a changé, c'est nous. Tout simplement. C'est un petit peu comme si dans un champ de blé, il y avait de la mauvaise herbe, ce qui empêche d'apprécier pleinement le blé. L'expérience de l'éveil est une expérience de table rase complète, de défrichage complet. Il n'y a rien qui pousse. Et puis cette expérience passée, le monde est encore là, tous les phénomènes sont encore là, rien n'a disparu. Enfin, pas tout à fait. Pour enlever la mauvaise herbe, on a la possibilité d'essayer d'arracher les brins l'un après l'autre, en évitant d'abîmer le blé qui est précieux. Ce qui est très difficile, voire impossible, et très long, et lorsque l'on arriverait à la fin du champ, il est probable que la mauvaise herbe aurait recommencé à pousser au début. L'approche qui est suggérée ici est l'expérience de l'éveil où rien n'apparaît, rien ne se manifeste et rien ne pousse. Et force est de constater que lorsque le blé repousse, après un tel défrichage, il y a moins de mauvaises herbes. Beaucoup moins de mauvaises herbes. Et puis lorsque l'on rase tout encore une fois et que l'on replante du blé, il y a encore moins de mauvaises herbes. Il arrive même un moment où, à la quatrième plantation, il n'y a plus de mauvaises herbes. Lorsque l'on a fait l'expérience de l'éveil, quatre fois, à la quatrième fois, tout le monde, bien entendu, est là, les phénomènes sont encore là, l'univers entier est encore là, le loka, rien n'a disparu, mais il y a une mauvaise herbe qui a totalement disparu, qui n'est plus du tout présente. Plus d'émotion, plus de peine, plus de colère, plus de jalousie, plus d'adversité, plus de haine, plus d'ignorance. Si nous sommes arrivés à la fin de la souffrance, dans ce monde ici-bas, ça n'est pas pour avoir enlevé quelque chose au monde, ça n'est pas non plus pour lui avoir substitué autre chose, une espèce de transcendance, en l'occurrence les jhanas, les consciences divines. Et si nous sommes arrivés à un état de bien-être dans ce monde, c'est parce que nous avons enlevé de ce monde tous nos comportements malsains, toutes nos attitudes malsaines. Et bien entendu, par conséquent et par définition, nous avons aussi enlevé de ce monde tous nos comportements sains et toutes nos attitudes saines. Nous ne produisons plus d'attitudes, de comportements susceptibles d'amener des conséquences déplaisantes, douloureuses, ni de comportements d'attitudes susceptibles d'apporter des conséquences plaisantes et heureuses. Et cette incapacité à produire encore de telles activités est due au fait que nous avons fait l'expérience de l'élément éteint, de ce loka utara. Voilà quel est le lien qu'il y a entre le monde et la cessation du monde. C'est que lorsqu'il y a eu cessation du monde, le monde revient, tout revient, moins quelques ingrédients. Il n'y a rien eu à transformer, il n'y a rien eu à transmuter, il n'y a rien eu à rejeter, il n'y a rien eu à adopter. Pas de rite, pas de prière, aucune méditation n'est nécessaire, aucun mantra, aucune concentration, aucune démarche, aucune technique, aucune procédure. Il n'y a pas besoin d'institution, il n'y a pas besoin de maître. Il n'y a pas besoin d'adopter une tenue particulière, un uniforme particulier, des comportements particuliers. Au contraire, la première chose à faire, c'est déjà de commencer par arrêter tout ça, dans un premier temps. Dans un premier temps, nous pouvons commencer déjà à arrêter beaucoup de comportements, avant même d'entrer dans la voie de Vipassana. Nous pouvons commencer à dégrossir et arrêter des comportements du corps et de la parole qui sont générateurs tout de suite de peine, de souffrance, de problèmes, de complications. Ça, c'est faisable. Mais pour ce qui est d'arrêter les attitudes mentales, les idées, les comportements, la névrose, on ne peut pas arriver à cela par une maîtrise des comportements physiques ni verbaux. Il faudrait ou bien pratiquer une méditation qui nous amène à un état de densité intérieure, de contrôle, de sérénité, de force intérieure. Mais nous aurions alors un résultat temporaire, qui pourrait d'ailleurs durer toute la vie, mais qui serait temporaire quand même. Ou bien arriver à ce que ces choses-là ne se manifestent plus d'elles-mêmes, qu'elles n'apparaissent plus d'elles-mêmes. Contrôler, par exemple, le désir, la fascination, par des exercices de méditation qui nous amènent à une expérience de plénitude, de sérénité, vide de désir, c'est très bien. Mais ne rien contrôler, ne rien faire, aucune technique, aucun exercice, aucune méditation, et constater de fait que le désir a totalement disparu, qu'il n'apparaît pas, alors que pourtant, tout l'environnement est le même, c'est beaucoup mieux. Par exemple, lorsque l'on a une maladie et que l'on prend des médicaments, on va réussir à éliminer la bactérie, le microbe ou le virus responsable de la maladie. Mais on ne s'est pas donné la garantie qu'il ne réapparaîtra jamais. La maladie peut revenir. C'est déjà pas mal d'avoir traité la maladie. Mais elle peut revenir. C'est toujours possible. Voilà pourquoi, dans notre démarche, nous ne sommes pas particulièrement attirés par les jhanas, particulièrement attirés par l'expérience divine, l'expérience de la béatitude, l'expérience mystique. Ce qui nous intéresse dans notre démarche, c'est arriver à évacuer la peine, la misère, la difficulté, le stress, paradoxalement, sans entreprendre un exercice technique pour y arriver. Parce que sinon, ce serait le résultat de cet exercice. Et nous voulons un résultat durable qui ne soit pas le résultat d'un exercice. Voilà comment on fait dans notre démarche. Dans notre démarche raisonnable et raisonnée. Il est vrai que pour arriver à ce que de notre mental n'apparaissent plus ces éléments qui sont générateurs de stress, qui sont eux-mêmes le stress, il faut avoir fait une expérience qui nous a mis en contact avec quelque chose qui ne se situe pas tout à fait dans ce monde. Et paradoxalement, une expérience où justement, il n'y a pas de contact avec cet objet-là, puisqu'il ne se situe pas tout à fait dans ce monde. Cet objet, cette chose, est ce qu'on appelle Nibbana, on appelle aussi parfois Dhammadhatu, élément, l'élément de la chose, l'élément de toute chose. On l'appelle parfois Shunyata Dhatu, c'est-à-dire l'élément vide. L'élément qui est totalement vide. Shunya, ça veut dire vide, et Ta, ça veut dire ce qui est. Shunyata, ça veut dire ce qui est vide. De la même manière que obscur, cela signifie sans lumière, et Te, cela signifie ce qui est. L'obscurité est ce qui est sans lumière. Et pourtant, l'obscurité n'est pas une chose qui existe, n'est pas une chose en soi. L'obscurité n'est pas un phénomène que l'on pourrait prendre, que l'on pourrait toucher, c'est l'absence de lumière. Nibbana, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on l'appelle Shunyata, ce qui est vide. Voilà ce qui nous distingue, ce qui discerne notre démarche des pratiques habituelles de méditation que l'on rencontre dans diverses traditions du Mahayana, dans diverses écoles de l'hindouisme, du soufisme ou autre. Et ce qui nous diffère, ce qui nous éloigne, a fortiori, du monde de la société de consommation aveugle. Vous remarquerez que souvent, les personnes qui adhèrent à une tradition spirituelle ont tendance un petit peu à cracher sur le monde du consumérisme et de la consommation en disant « Oui, ce sont des gens qui courent après les plaisirs des sens, qui croient trouver un certain bonheur dans le bonheur matériel, mais nous avons quelque chose de plus, nous sommes dans le spirituel. » Et vous remarquerez que les matérialistes diront « Les gens qui sont dans le spirituel sont dans un rêve. » Ils imaginent des tas de choses et ils s'astreignent à tout un tas de disciplines qui finalement les contraignent et qui ne les amènent pas au bonheur parce que tout est basé sur du rêve. Chacun campe sur ses positions et il est convaincu d'avoir raison. Eh bien, ce que nous disons, c'est que l'un et l'autre n'a pas tout à fait tort. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous engageons pas ni dans la voie de la spiritualité, ni dans la voie du matérialisme, ou en tout cas, pas trop. La voie de la spiritualité est suivie par ceux qui croient dans le bonheur éternel, dans la conscience éternelle, dans l'unité éternelle, état de félicité, état de bonheur absolu. La voie du matérialisme est celle qui est suivie par ceux qui ne croient en rien et qui croient que, au moment de la mort, tout disparaît, tout est totalement détruit. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne croient en rien, qu'ils ne croient en rien, cela en fait. Pour eux, la vie est apparue avec la naissance et s'arrêtera au moment de la mort, et entre les deux, il faut en profiter le maximum. Nous évitons ces deux voies. nous évitons ces deux extrêmes, qui sont basés, selon nous, sur une méprise et une mécompréhension. Nous ne nous intéressons pas beaucoup à un hypothétique bonheur au-delà de la vie, et nous avons cessé de courir, parce que nous sommes assez mûrs et assez intelligents pour avoir compris qu'il n'existe pas, après un bonheur ou un plaisir intense que l'on pourrait trouver dans cette vie. Nous sommes dans la situation de celui qui, après avoir tourné pendant longtemps dans les couloirs du métro, est désespérément à la recherche des toilettes pour se soulager. Nous sommes dans la situation de celui qui est fatigué et qui voudrait se soulager. C'est aussi simple que cela. Et pour se soulager, nous allons vers une certaine direction, évidemment. Et nous allons vers ce qui est comme un abri, nous allons vers ce qui est comme un refuge, comme une protection. C'est-à-dire que nous allons vers là où il n'y a en fait pas grand-chose à faire, mais certainement rien à attendre. De la même manière que celui qui s'abrite de la pluie n'attend rien, ni de la pluie, ni de l'abri, mais simplement il s'abrite de la pluie. De la même manière, en marchant vers Bouddha, en marchant vers Dharma, en marchant vers Sangha, nous n'attendons rien de cela. Mais simplement, nous nous mettons à l'abri. Pour nous abriter, pour nous protéger des vicissitudes, des souffrances et des peines, il y a la protection de celle-là, la protection de la vertu, qui est la protection au niveau du corps. Nous nous entraînons à nous abstenir de faire des choses malsaines, douloureuses, pénibles, génératrices de souffrances, au niveau le plus grossier, le plus palpable, le plus matériel, qui est le niveau du corps, celui-là même dans lequel se réjouissent les matérialistes. Nous ne les suivons pas. Nous nous entraînons aussi, dans la mesure du possible, à une certaine qualité d'attention, une certaine qualité de vigilance, de concentration, de présence d'esprit, qui doit aussi nous garder, nous protéger, nous abriter, de nous laisser aller à des comportements qui sont exclusivement basés sur les fascinations des désirs sensoriels. Courir après le plaisir pur. Et enfin, nous nous entraînons sur cette voie insolite. Insolite parce que désespérément désertique, vide de repères, dans laquelle on se sent souvent un peu seul, un peu largué, dans laquelle on a l'impression parfois qu'on se déconnecte du monde, parce qu'on a du mal à trouver nos repères habituels, qui est la voie de la vision directe dans la réalité, l'établissement de la présence d'esprit qui mène à la vision directe dans la réalité, vipassana. Celle-ci nous amènera non seulement à abandonner les comportements du corps, à abandonner les comportements du verbe, mais aussi à observer par nous-mêmes la disparition des comportements du mental, de la pensée, susceptible d'apporter de la peine, susceptible d'apporter de la misère, de la souffrance, mais aussi susceptible d'apporter du bonheur et de la jouissance. Nous avançons vers Nibbana, nous avançons vers l'expérience de Nibbana, qui est l'expérience de la cessation. Un jour, quelqu'un demanda à Sariputta, « Tu dis que Nibbana est totalement vide de sensation. Comment est-ce qui est vide de sensation peut-être le bonheur, puisqu'il n'y a pas de cessation ?» De sensation, pardon. Et Sariputta lui répond, c'est justement en cela qu'il n'y a pas de sensation, que cela est le bonheur parfait. Il n'y a pas d'expérience véritablement de Nibbana. Il n'y a pas de pratique de Nibbana, il n'y a pas véritablement de conscience de Nibbana. S'il y a un travail à faire pour arriver à cela, il faut le faire avant. Parce que ce travail disparaît au moment de l'éveil. Parce que l'éveil, c'est Nibbana qui est antérieur au monde. Le travail que nous le faisons dans ce monde. Et les effets, les conséquences, pour nous, dans nos vies quotidiennes, se passent dans ce monde. même si nous avons fait un petit crochet juste avant, un petit crochet vers ce qui le précède. Voilà. Nous pouvons espérer, nous pouvons souhaiter d'avancer, de progresser sur cette voie qui nous amènera à l'expérience de l'éveil, encore que maintenant j'ai du mal à employer deux mots, qui nous amènera, et bien employons le mot que Nibbana a utilisé lui-même, que Bouddha, pardon, a utilisé lui-même, qui nous amènera à Nibbana. Et nous pouvons aussi souhaiter, bien entendu, que les êtres qui vivent dans ce monde, qui ne sont peut-être pas aujourd'hui en mesure de réfléchir, qui ne sont pas en mesure de douter, qui ne sont pas en mesure de comprendre, puissent néanmoins quand même, un jour, une fois dans leur vie ou dans une autre vie, rencontrer cet enseignement, c'est-à-dire tout simplement faire l'expérience du monde, faire l'expérience des choses de la vie, réfléchir, comprendre, avancer sur cette voie et, à leur tour, arriver à Nibbana. Nous pouvons souhaiter, espérer, même si cela peut paraître un peu utopique, idéal, que tous les êtres un jour qui vivent dans ce monde, qui vivent dans cet univers qui est si vaste, puissent rencontrer cet enseignement et arriver enfin à l'expérience de la libération, l'expérience de la fin complète de la souffrance, de la douleur.